C'était le 5 mai 1927. On remonte un petit peu le temps ce matin. Pierre de Saint-Romand a réalisé à bord de son avion la traversée de l'Atlantique Sud sans escale. Une histoire totalement méconnue alors qu'elle concerne un enfant du pays. La toute récente inauguration d'allée Pierre de Saint-Romand à Fourquevaux à l'est de Toulouse met en lumière notamment cet exploit. Partons à sa découverte avec un de ses descendants. Bonjour Christophe Delafage.
Bonjour.
Comment avez-vous découvert cette belle histoire ?
Un peu un ensemble de concours, de circonstances. D'abord, nous avions des archives familiales que nous ne connaissions peut-être pas dans leur étendue globale. Et puis, c'est peut-être aussi l'inauguration des allées Pierre de Saint-Romand qui nous a conduit à nous pencher plus sérieusement sur l'étude de ces archives, la complétude de ces archives, et puis de repositionner ce vol dans l'histoire de l'aviation, et en particulier cette fameuse année 1927.
Alors, on va effectivement repositionner, vous le disiez, ce vol dans cette histoire de l'aviation. Vous avez travaillé donc à partir de ces archives. J'imagine que vous avez contacté des associations, des historiens. Vous avez donc fait connaissance avec Pierre de Saint-Romand. Qui était-il ?
Comme vous le disiez, un enfant du pays, hein, même s'il est né en Meurthe-et-Moselle, à Toul, puisque son père était militaire. Il a passé toute son enfance à Toulouse, dans son hôtel particulier, l'hôtel particulier de la famille qui était Place Saint-Étienne, et dans le château familial où il venait passer ses week-ends et ses vacances à Fourquevaux.
Il est né en quelle année ?
Il est né en 1891 et parti donc en 1927.
D'accord. Hein, voilà. Et il a eu une carrière, avant de se lancer dans l'aviation, il a eu une carrière
alors,
dans l'aéronaval par exemple ?
Après ses études, il a intégré donc en 14 au début de la guerre, le 10e régiment de hussards de Tarbes. Et puis, il a gravi les échelons. Il a été cité 5 fois à l'occasion d'actes de bravoure, ce qui lui a valu d'ailleurs en 1924 la Légion d'honneur. Voilà. Et puis, on arrive dans les années 24, où il prend un congé sans solde, parce qu'il commence à imaginer son futur vol. Et pour ce faire, il rentre en contact avec une association qui s'appelle la Paris Amérique Latine, qui est créée en 1925, domiciliée boulevard de la Madeleine à Paris, et qui est l'émanation de tous les pays d'Amérique du Sud.
Voilà. Mais il volait déjà cet homme, Pierre de Saint-Romand ? Il avait une expérience de pilotage d'avion ?
Pardon, il a passé son brevet de pilote, effectivement, en 1918. Il n'a pas fait la guerre en avion, il n'était pas aviateur. D'accord. À ce moment-là. Et il n'a que 250 heures de vol au moment où il part. Il est conscient de cette faiblesse. C'est pour ça qu'il s'entoure d'un copilote expérimenté qui s'appelait Hervé Mounérès, qui était un pilote confirmé. C'est d'où son intelligence aussi d'avoir su s'entourer de compétences qui lui permettait de tenter cette traversée de l'Atlantique Sud sans escale.
Quel était justement son objectif avant d'effectuer cette traversée ? Qu'est-ce qui l'a motivé pour partir comme ça ?
Tout simplement, bon, il y a eu une émigration naturelle entre la France et puis les pays d'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, beaucoup. Donc il y a des liens fraternels, il y a deux de ses frères d'ailleurs qui s'installent en Argentine. Et puis, il porte assez vite l'ambition de réunir, grâce à l'avion, deux continents, dont un, l'Amérique du Sud, qui représente à l'époque à peu près un quart de l'humanité. Et il est porté par une ambition qui tourne autour du tourisme. Il est assez précurseur de ce point de vue-là. Et coche son par écrit le dimensionnement de son vol, où il exprime effectivement la nécessité, grâce à l'avion, d'ouvrir de nouvelles voies aériennes. D'où l'idée que son vol était prévu pour s'arrêter auprès de 52 villes d'Amérique du Sud.
Alors justement, on va voir ce parcours. D'où est-il parti ?
Alors, comme tous ses vols, il partait du Bourget, il faisait des escales dites techniques à Saint-Raphaël et puis à l'étang de Berre. Et ensuite, ses étapes étaient les suivantes, Casablanca, Agadir, Saint-Louis du Sénégal, toutes les traversées du continent africain au continent sud-américain se faisait systématiquement entre Saint-Louis du Sénégal et les côtes nord brésiliennes, c'est-à-dire entre Recife et Natal. Juste pour vous donner un point de repère, avant le 5 mai 1927, l'ensemble des tentatives et des réussites de traverser de l'Atlantique Sud avec escale se faisait systématiquement par escale sur les îles du Cap-Vert ou sur l'île de Fernando de Noronha, située à 300 km des côtes brésiliennes.
Donc Pierre de Saint-Romand a voulu faire cette traversée sans escale. C'était une première ?
C'était une première,
c'était une première. Et comment, finalement, on a su qu'il l'avait fait?
Alors, on l'a su, évidemment, avec un peu de recul, puisque grâce à quelque chose qui peut apparaître comme étant un peu miraculeux, puisque des pêcheurs brésiliens, 44 jours après le crash de l'avion, il était attendu le 6 mai par une centaine de milliers de Brésiliens sur les côtes nord, il n'est pas retrouvé. 44 jours après, on retrouve un radeau au large des côtes brésiliennes, qui avait dérivé, bien entendu. Ce radeau est apporté auprès du consulat de France à l'intérieur des terres, il est expertisé, et avec certitude, donc, on identifie que ce sont bien les restes de l'avion, le Goliath Farman, qui était un beau bébé, puisqu'il faisait 26 mètres d'envergure. Et il est renvoyé en France, où il est resté ici dans la famille jusqu'en 76, et à l'occasion du cinquantenaire du vol, la famille en fait don à l'ex-musée du Bourget, qui est devenu le musée de l'air et de l'espace.
Donc pour l'instant, cet avion n'est pas visible dans notre région.
Non, absolument.
Mais peut-être qu'un jour...
On le souhaite ardemment.
Vous le souhaitez.
Et ça fait l'objet de quelques discussions. Voilà.
Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cet avion? Vous nous avez parlé d'une envergure de 26 mètres. C'est, à l'époque, c'est comment un avion en 1927?
C'est alors déjà par l'envergure, vous vous imaginez, ce sont initialement ces avions, cette gamme d'avions dits Farman a été conçue par les trois frères Farman qui étaient d'origine anglaise, qui sont installés en Normandie et dont les usines de montage étaient à Boulogne-Billancourt. Et cet avion, c'était un bombardier à l'origine qui a été transformé en avion dit terrestre ou hydravion, pour permettre effectivement la traversée des océans, en tout cas pour une vocation dite commerciale.
Donc à la place des bombes, il y avait des réservoirs d'essence finalement?
Il y avait des réservoirs d'essence et des flotteurs.
Et des flotteurs, bien sûr. Oui. Oui. Alors vous nous disiez que cette traversée de l'Atlantique se situe dans une histoire de l'aviation. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous en donner deux, trois points de repère?
Oui, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que cette histoire ressort 95 ans après. Elle n'est que très peu connu par quelques rares historiens. Et nous sommes ici dans le Toulousain, qui est un peu le berceau de l'aviation. Hein. Et pour autant, il y a eu comme une espèce d'amnésie collective par rapport à ce vol, alors que quand on regarde, quand on le resitue dans cette chronologie, c'est absolument sidérant, puisque ce vol part le 5 mai 27, le 9 mai, vous avez le fameux vol dans le sens Paris-New York de Ningesser et Colli, dont les médias français et internationaux ont beaucoup parlé. Et puis le 27 mai...
Et vol pourtant qui n'a pas abouti.
Et vol qui n'a pas abouti, de la même manière, absolument. Le 27 mai, vous avez le fameux vol de Charles Lindbergh dans le sens New York-Paris. Pour mémoire, Charles Lindbergh se repère pour atterrir sur les pistes du Bourget grâce à la Tour Eiffel.
Ah, excellent.
Vous voyez, et si on établit un parallèle, Pierre de Saint-Romain, lorsqu'il arrive, ou en tout cas lorsqu'il est soi-disant en passe d'arriver sur les côtes nord-brésiliennes, il est attendu par des dizaines de milliers de Brésiliens qui allument les phares de leur voiture pour guider l'avion.
Et pour son atterrissage.
Et pour son atterrissage, ah, absolument.
Oui, oui, oui. Voilà une belle histoire à découvrir. Vous avez, j'imagine, fondé une association pour faire parler de Pierre de Saint-Romain.
Elle est en passe d'être constituée, c'est imminent.
Elle s'appellera ?
L'association Pierre de Saint-Romain.
Tout simplement. Voilà, tout simplement. C'était le 5 mai 1927, la traversée de l'Atlantique Sud sans escale. Merci à vous, Christophe Delavage.
Merci.